France Inter. Le 18-20, Fabienne Sintès.
Or donc, les syndicats ont manifesté en groupe. Cet après-midi, le chiffre de participation à Paris, celui du comptage indépendant d'occurrence, parle de 72 500 manifestants, c'est beaucoup. Mais maintenant, demain, les syndicats ont rendez-vous chez le Premier ministre. Jeudi, ils seront tous théoriquement à Matignon. Mais pour se dire quoi? Dans quel mécano va-t-on entrer pour enjamber l'âge pivot? Point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il y a réellement dans l'air? En quoi cela débloquerait-il des cheminots, des agents RATP qui sont entrés dans le mouvement pour sauver leur régime et pour que toute la réforme soit abandonnée? Même question autour des professionnels, des professions les plus mobilisées que sont les enseignants, les personnels soignants, les avocats par exemple qu'on a pu croiser dans les rues cet après-midi. Le week-end de Noël approche, la SNCF a annoncé quel train serait bien au départ. Si vous avez un ticket, vous partirez, c'est ce qu'a assuré la compagnie cet après-midi. Probablement la question de la trêve va-t-elle se poser avant le week-end, mais que restera-t-il d'une mobilisation le 22 janvier lors de la discussion au Conseil des ministres ou même en février pendant le vote au Parlement? Il y a une autre question, y aura-t-il un remplaçant à Jean-Paul Delevoye que le Premier ministre a lâché aujourd'hui définitivement en disant que Matignon n'était pas informé de l'ensemble des mandats de l'ex-monsieur retraite? La vérité peut-être ailleurs, c'est ce qu'on a cru lire dans Le Monde cet après-midi. Ce soir, que reste-t-il de l'opinion qui n'a pas encore basculé dans un sens ou dans l'autre? On en parle ensemble ce soir. Soyez les bienvenus, vos questions au 01 45 24 7000 seront lues à l'antenne et les boîtes mail de France Inter sont toutes ouvertes. On est parti.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et on commence avec Eric qui nous dit « Plus de 2000 personnes dans la manif à Draguignan, dit-il, c'est assez exceptionnel. » Il nous parle de sa volonté de continuer le mouvement après une AG qui a été approuvée par tout le monde, y compris d'ailleurs par tous les syndicats. Donc plutôt réjoui, nous dit-il, les syndicats s'inspirent des gilets jaunes. Il y a des ponts qui se font même avec les mouvements écolos pour voir un petit peu à quoi ressemblait cette mobilisation, ce qu'elle dit par la suite et pour discuter évidemment de ce qui se passera derrière. Bonsoir François Fressos.
Bonsoir.
Vous êtes éditorial politique au Monde. Bonsoir Gaël Slimane.
Bonsoir.
Président et cofondateur d'Odoxa, Yael Gauz, vous avez un rond de serviette ici. Rebonsoir.
Oui, j'ai mis mon duvet.
Du service, absolument, du service
bonsoir,
politique
Fabienne.
De France Inter. Qu'est-ce qu'on dit de cette mobilisation? Qu'est-ce qu'elle nous apprend, Françoise Fressos? C'est 72 500 selon Occurrence notamment. Il y a eu du monde dans
Alors, c'était la troisième grande journée interprofessionnelle, 13e journée de mobilisation. C'est moins important que le démarrage du mouvement le 5 décembre, mais ça reste quand même assez important. Donc, les manifestants et les grévistes peuvent se dire qu'au fond, ils sont suffisamment encore nombreux pour ne pas plier les Gaules. Donc, ça ménage le suspense pour les journées cruciales qui vont être demain et après-demain, puisque le Premier ministre a d'ores et déjà prévu des rencontres bilatérales, puis une rencontre multilatérale jeudi, et ensuite suivi des rencontres avec les patrons des entreprises publiques concernées, puisqu'il y a non seulement des manifestations, mais aussi des grèves très suivies à la SNCF et à la RATP notamment.
Gaël Slimane, là-dessus, je reviens aussi sur ce que je disais en introduction, toujours des manifestations qui sont plutôt suivies et une opinion, elle aussi, qui reste entre deux eaux. Elle n'a pas réellement flanché d'un côté ou de l'autre.
Entre deux eaux, pas vraiment. L'opinion publique, elle est depuis longtemps maintenant du côté des grévistes et des manifestants, puisque à longueur d'enquête, on en a réalisé ces trois dernières semaines, chaque semaine, on a en gros les deux tiers des Français qui nous disent que ce mouvement est justifié. Certains confrères testent une autre formulation de question qui est une question de soutien. Sympathie, soutien qui est encore plus radical. Et on a là aussi une majorité de Français.
On tournait autour de 54 hier, ça monte plus haut pour ce que vous dites vous chez Odoxa?
Oui, parce que c'est une question de justifier. C'est-à-dire que vous pouvez estimer que quelque chose est justifié sans pour autant dire je le soutiens pour autant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez l'opinion publique qui a déjà basculé au cours du mois de novembre du côté des manifestants et des grévistes et des syndicats de cheminots et de la CGT, alors qu'au départ, les Français étaient une très large majorité, ils le sont toujours d'ailleurs, à être favorables à une remise à plat du système des retraites, à la fin des régimes spéciaux. Il a vraiment fallu une accumulation de bourdes, de communications quasiment remarquable de la part du gouvernement et de l'exécutif pour retourner l'opinion publique contre leur projet de retraite auquel les Français étaient au départ attachés.
Gaël.
Il y a peut-être un trompe-l'œil sur cette journée de mercredi. Là, je vois les chiffres au niveau national, ministère de l'Intérieur, 615 000.
Journée d'aujourd'hui, vous voulez dire. Donc
615
on est mardi.
000. Mmh. Journée de... J'ai dit quoi? J'ai
mercredi,
dit...
mais c'est pas grave.
Ah non, je suis déjà dans le futur. Mardi, 615 000 manifestants en France, dont 76 000 à Paris. Souvenez-vous, on était à plus de 800 000. Même source, ministère de l'Intérieur, le 5 décembre dernier. Donc, on disait qu'il y avait un mur le 5 décembre. Ça aurait dû être une muraille, logiquement, nous disait-on au gouvernement, puisque la CFDT se joignait au cortège. Les syndicats réformistes étaient là, avec beaucoup de profs, avec aussi les aides-soignants, etc., etc. Or, au final, on a une jauge qui est plus faible. Mais attention au trompe-l'œil, comme le disait bien Gaël Slimane, parce que aujourd'hui, un mouvement social ne se mesure pas forcément au nombre précis de personnes qui vont battre le pavé en France. C'est vraiment aussi une bataille de l'opinion qui se joue, et les tendances lourdes que l'on observe, que ce soit chez Harris Interactive, Odoxa ou IFOP, montrent bien que il n'y a pas de décrue sur le soutien au mouvement ou la perception justifiée du mouvement social.
Et ça, est-ce que c'est, Françoise Fressoz, est-ce que c'est un mauvais calcul du gouvernement? Est-ce que ce qu'ils avaient anticipé, ce qu'ils avaient imaginé, c'est plutôt que l'opinion se dirait voici un mouvement avec des gens qui défendent leur bout de droit uniquement.
Je pense qu'il y a un risque calculé. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que après avoir subi le mouvement des Gilets jaunes, qui a quand même duré longtemps et qui a quand même failli le fragiliser fortement, Emmanuel Macron accepte d'emblée de se relancer dans une réforme qui était peut-être au début populaire, mais qui au fond l'est devenue impopulaire. Pourquoi? Parce qu'elle est extrêmement difficile à expliquer, dans la mesure où, si vous voulez, c'est une belle théorie, on change de système, c'est-à-dire on met à bas 42 régimes existants pour faire un système universel. Mais au fur et à mesure, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup plus de perdants que ce qu'on croyait. On n'a pas tellement bien compris les finalités de la réforme. Et au fond, Matignon et l'Élysée, quand ils se sont lancés dans la bataille, ils savaient que ce serait difficile. Mais il y a un pari d'Emmanuel Macron de dire « je serai le grand transformateur social, je suis celui qui va transformer le modèle social et je suis celui qui, contrairement à la droite, qui à chaque fois a canné devant les réformes, ira jusqu'au bout du système ». C'est pour ça que, au fond, Édouard Philippe et Emmanuel Macron sont si déterminés à dire « sur le système universel, on ne calera pas et on ira ». Mais ça n'empêche pas qu'il peut y avoir ensuite des négociations dans les détails qui vont se poursuivre. Pourquoi? Parce que je pense que quand vous êtes vous érigez en transformateur d'un système social et que au fond il vous manque la confiance, c'est-à-dire l'idée que ce que vous allez inventer sera meilleur que ce qui est là, vous avez un déficit de confiance qui se paye dans les sondages. Et donc il faut absolument que une partie des syndicats revienne dans le jeu. Ne serait-ce que pour, vis-à-vis de l'opinion publique, être les garants qu'il y aura une certaine justice dans le système. Et on voit bien que depuis le début, il y a eu quand même des corrections faites. Par exemple, on fait un système à points. Normalement, c'est le point qui équilibre le système. Là, maintenant, on sait déjà que le point ne pourra pas baisser, la valeur du point ne pourra pas baisser, qu'elle sera indexée sur les salaires. Et ça, c'est quand même des conquêtes syndicales à chaque fois. Donc, il y a presque une obligation pour le gouvernement et pour le président de la République de remettre dans le jeu au moins une partie des syndicats pour dire aux Français, écoutez, ce qu'on vous fabrique là n'est pas antisocial. Parce qu'au fond, c'est ça, à mon avis, la grande crainte des Français, c'est de se dire, on abandonne un système qui n'était pas parfait, mais pour aller vers un système dont on ne connaît pas bien les contours, et on n'est pas très sûr que celui qui veut le mettre en œuvre va répondre à nos préoccupations.
Remettre les syndicats dans le jeu, ça veut dire remettre la CFDT dans le jeu. En fait, c'est ça que ça veut dire, Gaël Slimane. Oui. Est-ce qu'il suffit, il suffit de quoi? Il suffit de retricoter, de faire un mécano, comme on le disait tout à l'heure, de ce fameux aspivot pour que la CFDT retourne dans le jeu?
Alors, en fait, c'est assez surprenant, c'est que vous avez un syndicat majeur, la CFDT, qui était à la baguette, qui était à l'initiative, qui était complètement en phase avec cette idée de refonte de l'ensemble des régimes de retraite et de mise à plat en un seul, qui a un sujet chiffon rouge qui est cet âge d'équilibre ou âge pivot, puisque ça a changé de nom, de dénomination au fur et à mesure du temps. Donc ce n'est pas très compliqué a priori, de remettre la CFDT dans le jeu. Et Françoise Fressoz le disait à juste titre, déjà ça enverra un signal à l'opinion publique, même si les syndicats en général et la CFDT en particulier n'ont pas une si bonne image, ça permettrait aux Français de se dire que tiens, peut-être quelque chose de positif se passe. Mais surtout, je vous l'ai dit, dans nos enquêtes d'opinion, la seule raison pour laquelle les Français se sont mis à se retourner et à estimer que cette réforme était mauvaise, c'est parce que au début, ils pensaient que c'était les régimes spéciaux qui allaient en pâtir, pour dire les choses clairement. et que au fur et à mesure qu'ils ont compris qu'il y aurait cet âge pivot, ils ont compris aussi que probablement ils devraient partir à la retraite à 64 ans, et donc plus tard que prévu. Si vous les rassurez sur ce point, vous aurez toujours des blocages, vous aurez toujours des trains qui ne démarrent pas parce que ça ne suffira pas à calmer la CGT. En revanche, vous pourrez peut-être avoir une opinion publique en votre faveur, et une CFDT aussi.
Yaël.
Mais il y a un petit indice, un non-dit quand même cet après-midi, ça m'a marqué moi à l'Assemblée lors des questions au gouvernement. Quand Édouard Philippe répond à l'opposition sur sa réforme, il dit sa détermination totale à mener la réforme du régime universel jusqu'au bout, le régime universel. Et il n'ajoute pas, il ne parle plus dans cette séquence où il parle aux députés, l'âge pivot, il ne prononce plus la notion d'âge pivot. Or, elle était vraiment inscrite depuis une semaine maintenant, depuis qu'il s'est exprimé au CESE. C'était vraiment dans le discours permanent d'Édouard Philippe. Le retrait dans cette déclaration cet après-midi aux questions au gouvernement de la notion d'âge pivot est peut-être déjà le début d'un signal pour demain et après-demain dans les négociations où peut-être que sera réaménagé l'équilibre financier voulu.
Alors, réaménagé ou enlevé, parce qu'on nous a expliqué quand même qu'au début cet âge pivot n'était pas là, il y a eu ce fameux dîner, puis finalement l'âge pivot est revenu au milieu de la nuit, a été vendu derrière. À quoi ça ressemble si subitement il n'y a plus d'âge pivot, Françoise Fressos? Est-ce que vraiment on peut l'enlever carrément?
Ce qu'il faut, et ça je pense qu'il y a, on a vu les positions se rapprocher entre Laurent Berger et Édouard Philippe. Au fond, c'est l'idée qu'on ne peut pas rentrer dans un nouveau système en ayant 10 milliards d'office de déficit. C'est parce que même pour les futurs retraités, c'est pas audible de dire on vous fait une nouvelle réforme et on vous laisse 10 milliards de déficit. Donc il faut trouver une façon de régler ce problème financier. La difficulté, c'est que on voit bien que la hausse de cotisation prônée par la CFDT est rejetée par le patronat. Donc vous pouvez d'ores et déjà conclure que les partenaires sociaux ne seront pas d'accord là-dessus. Ensuite, vous avez l'idée de baisser les pensions. Personne ne va vous proposer ça. Donc, il faut quand même jouer autour de la notion de est-ce qu'il ne faut pas à un moment travailler plus, mais peut-être en exonérant certains, c'est-à-dire les carrières longues ou ceux qui ont démarré tôt, beaucoup plus tôt. Est-ce qu'il n'y a pas un système à trouver autour de ça? J'ajoute quand même une autre chose, c'est que je ne suis pas sûre que l'âge pivot, même à supposer qu'on l'enlève, suffise. Parce que vous avez quand même, parallèlement aux manifestations, vous avez des grèves très très suivies à la RATP, à la SNCF, qui sont des régimes spéciaux. Et qu'est-ce que demande la CFDT cheminots? Elle demande l'application de la clause du grand-père, c'est-à-dire que le régime spécial ne s'applique qu'aux nouveaux entrants. Donc, on voit bien que je suis pas sûre que l'âge pivot suffise. Donc, il faut peut-être trouver aussi à l'intérieur de l'entreprise des garanties. Mais la difficulté, c'est que si vous cédez trop sur les régimes spéciaux, ceux du régime général vont dire, mais attendez, on est en train de nous faire une réforme pour nous, et les régimes spéciaux, ça sera pour... Donc, il faut faire vraiment un équilibre millimètre pour à la fois satisfaire la CFDT, ne pas donner aux Français l'impression qu'on recule, et donc... Et montrer en même temps qu'on est ouvert à la négociation, parce que sinon, à un moment, il va se poser la question, par rapport à l'opinion publique, qui est responsable du blocage à la veille de Noël. Et si c'est le gouvernement qui endosse cette responsabilité, il va avoir du mal à s'en sortir.
Alors, on le souhaite bon courage en effet, parce que comme vous le disiez, dans la rue, SNCF et RATP parlent de régimes spéciaux, mais les avocats parlent de conserver leur régime autonome, les enseignants ont peur aussi pour leur retraite, les soignants disent encore autre chose. Chacun est dans son couloir, mais personne ne parle très spécifiquement d'un âge pivot qui permettrait de faire sauter tous les verrous, Yael.
Non, il y a presque un archipel de revendications pour que chacun préserve aussi les spécificités de son régime, même en passant au régime à points, c'est-à-dire que les policiers ont obtenu, vous aviez vu, il y avait un conflit en cours qui s'est arrêté parce que le gouvernement a cédé sur des bonifications qui auraient pu être différenciées entre policiers sur le terrain et policiers dans les bureaux. Là-dessus, il a cédé. Vous avez des négociations avec les hospitaliers en cours, évidemment, sur la pénibilité aussi des infirmières de nuit. Vous avez les enseignants. Alors là, c'est loin d'être réglé parce que Jean-Michel Blanquer n'arrive pas à convaincre, pour l'instant, les syndicats de sa bonne foi sur les milliards d'euros qu'il va falloir injecter.
Manque de confiance dont on parlait à l'instant, qui vaut pour Jean-Michel Blanquer, Édouard Philippe et tous les autres.
Et donc, à la fin, effectivement, vous avez un mouvement assez hétéroclite sur une revendication générale qui est la justice sociale dans les retraites. Mais l'âge pivot, ce qui est assez troublant, c'est que l'âge pivot, en fait, il concerne tout le monde. On n'est plus sur la génération 75 ou pas 75. On est à partir de 59. Ceux qui sont nés à partir de 59, tout le monde est touché. Le malus qui serait provoqué par un départ à la retraite à 62 ans, qui reste l'âge légal, serait appliqué à toute cette génération-là jusqu'à la tombe. tombe. Hein, c'est ça qu'il faut voir, le malus, il est jusqu'à la tombe.
Mais comme une décote, aujourd'hui on a peut-être oublié aussi comment fonctionnait le système. Aujourd'hui, si on part avec une décote, on la garde, la décote, si je ne m'abuse.
Non, dans le système Agirc Arrco, si vous partez avec une décote, vous la gardez 3 ans, mais à partir du moment où vous atteignez 65 ans, la décote saute. Tandis que dans le nouveau système qui était envisagé, c'est pour ça aussi que la CFDT est si en colère, c'est que si vous partez avant l'âge de 64 ans, vous avez votre décote et vous la gardez à vie tout le long de votre retraite. Et donc ça, c'est pour la CFDT, c'est un casus belli.
C'est une question pour vous, Gaël Slimane, spécifiquement. L'échantillon, c'est Bertrand qui la pose. L'échantillon interrogé pour les différents sondages de soutien au mouvement est-il pondéré en fonction des critères de gens affectés par ces grèves? Quel serait ce chiffre de soutien si on limitait l'échantillon à l'Île-de-France qui est particulièrement touchée?
Non, il est bien sûr, il n'est pas pondéré. C'est une bonne question de votre auditeur. Les échantillons de sondage sont toujours représentatifs de l'ensemble de la population. Et donc, pourquoi c'est une bonne question? Parce que vous avez des grèves qui, finalement, affectent essentiellement les personnes qui habitent en région parisienne. Et d'ailleurs, dans toutes les questions qu'on pose dans les sondages, quand on regarde ce que nous disent les franciliens, au sens large, vous avez en gros 40% de Français qui nous disent qu'ils ont déjà été affectés par ces grèves ou qu'ils craignent de l'être dans le cadre de leur départ en vacances pour aller voir leurs parents, leur famille en province ou à Paris s'ils viennent de province. Vous montez à 60% de personnes qui ont été dérangées ou qui vont l'être quand on est en région parisienne. Ensuite, même les franciliens, pour répondre plus précisément à votre auditeur, sont justifient la mobilisation. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, les gens nous disent en même temps qu'ils sont pénalisés, qu'ils trouvent ça insupportable, que pour eux c'est une galère sans nom, pour ceux qui sont concernés, mais ils nous disent aussi, le principal responsable de ce blocage, c'est pas tant les grévistes et les gens qui nous empêchent de prendre les transports en commun, que le gouvernement. Le rapport est de 60-40 quand on pose la question qui est le principal responsable. Donc ce qui est très compliqué pour Emmanuel Macron et pour Édouard Philippe, c'est que ils ne peuvent même pas compter sur ce qu'on appelle un pourrissement de la situation en espérant que l'opinion se retournerait, parce que très probablement, si les gens sont pénalisés dans les semaines qui viennent et si les fêtes de Noël des Français sont gâchées, aux yeux des Français, le principal responsable sera le gouvernement, à moins qu'ils ne mettent fin à ce sujet clivant avec la CFDT qui est l'âge pivot, et que du coup, peut-être, les Français changent d'avis et se disent que c'est la CGT le responsable. Mais pour le moment, c'est le gouvernement qui est jugé responsable.
Il y a ensuite une autre question.
Oui, il y a un film complètement fiction pour l'instant en politique qui pourrait s'écrire si les choses devaient s'aggraver. C'est que jamais Emmanuel Macron n'a verbalisé publiquement son soutien à cet âge pivot, à cet âge d'équilibre. Il avait même dit sur France 2 fin août après le G7 à Biarritz, moi je préfère l'allongement de la durée de cotisation. Mmh. Et il rejetait l'option de l'âge pivot. Âge pivot qui avait aussi créé de fortes frictions au gouvernement entre Jean-Paul Delevoye et Édouard Philippe au printemps. Où lorsque la question de l'équilibre est arrivée sur la table, Jean-Paul Devoy s'est braqué, il ne voulait pas qu'on parle de ça, et avait même mis sa démission en jeu à l'époque. Bon, les choses sont accélérées maintenant, il est parti, il est viré, mais n'empêche que ce sujet de l'âge pivot, il est typiquement marqueur d'Édouard Philippe. Édouard Philippe, donc si les choses devaient s'aggraver, il pourrait lui aussi peut-être porter, comment dire, être le fusible au moins sur le fond, peut-être pas de Matignon, mais fusible au moins sur ce sujet-là.
Il y a quelques questions sur Jean-Paul Devoy auxquelles on viendra tout à l'heure. D'abord, celle de Bernard, qui est un fidèle du téléphone sonne. Bonsoir Bernard. Pourquoi le gouvernement ne repousse-t-il pas tout simplement la présentation de son projet de retraite de quelques semaines pour avoir le temps de le peaufiner éventuellement par la négociation avec les catégories professionnelles inquiètes? Il pourrait ainsi présenter un projet complet, notamment avec des simulateurs officiels et performants qui permettraient à chaque Français de constater le bien fondé de la réforme en ce qui le concerne. Moi, je la trouve intéressante la question de Bernard parce qu'elle dit exactement tout ce qui manque en fait. Un peu de clarté là-dessous.
Oui, en même temps, la concertation autour de cette réforme, elle dure pratiquement depuis le début du quinquennat. Donc,
2 ans.
Et vous vous souvenez aussi qu'à un moment, on s'est dit, mais attendez, qu'attend le gouvernement pour trancher la négociation a trop duré. La difficulté, c'est que de toute façon, là, les positions sont tellement figées que je ne vois pas à quoi ça servirait de retirer le texte pour le renégocier. On sait qu'un certain nombre de syndicats, notamment la CGT et FO, sont farouchement hostiles au principe de la retraite universelle par points et que donc ils n'entreront pas dans les négociations. Et quant aux simulations, elles ne peuvent être établies qu'au toute dernière extrémité, c'est-à-dire que quand le texte est vraiment négocié, parce qu'il suffit de bouger un paramètre pour que les simulations que vous faites pour rassurer les Français soient fausses. Donc, il n'y aurait rien de pire pour un gouvernement que de dire, tiens, en l'état actuel, voici la simulation, parce que ça sera pas le définitif. Donc, il est un peu condamné, au fond, à aller assez vite, c'est-à-dire à régler le problème dans les 2 ou 3 jours qui viennent, faire la concession suffisante pour ramener à lui les syndicats qui sont pas opposés au principe de la réforme, sans non plus perdre la face, parce qu'il y a aussi la nécessité pour Emmanuel Macron et Édouard Philippe de garder leur socle, c'est-à-dire la République en marche, une partie de la droite, et les retraités aussi, qui ont plutôt tendance à soutenir la réforme, même s'ils ne sont pas concernés, peut-être parce qu'ils ne sont pas concernés.
Ils soutiennent toujours les réformes des retraités.
Yaël ?
Ce que Bernard a parfaitement remarqué, c'est qu'il y a eu une accélération politique du calendrier, ça c'est clair. Ah. Il fallait qu'il y ait un premier examen à l'Assemblée avant les municipales, ça c'est clairement une accélération qui n'était pas au départ voulue. En septembre-octobre, quand on en parlait, on nous disait, oh là là, on va enjamber les municipales pour ne pas les gâcher, justement. C'est ce que disaient les proches d'Emmanuel Macron à l'époque. Et ensuite, ce qui est déposé au Conseil d'État là avant Noël pour être ensuite déposé en Conseil des ministres le 22 janvier, c'est une loi cadre. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir tout le détail de la réforme des retraites, vous allez avoir les grandes lignes de comment ça doit fonctionner. Mais après, il faut travailler régime par régime, catégorie de régime spécial par catégorie de régime spécial. Et en plus, il faut que le travail parlementaire se fasse et qu'il y ait de l'amendement, ça va durer 6 mois, jusqu'à l'été.
On n'est pas à la veille du vrai simulateur que réclame Bernard.
Le simulateur est impossible. Avoir du sens, ouais. Puisqu'il faut qu'il y ait un point qui soit défini pour que le simulateur soit valable, il faut que de toute façon, ça passe entre les mains des députés et sénateurs pour être amendé et que les partenaires sociaux apportent aussi l'eau au moulin. Donc tout ça ne peut se faire que, on y verra clair, dans le meilleur simulateur septembre 2020.
Alors quel est le sens de... On sait donc qu'il va rencontrer les syndicats demain, Édouard Philippe, demain mercredi, puis jeudi ce sera une forme de Grenelle en quelque sorte. Quel est le sens de faire un Grenelle après cette rencontre séparée? Qu'est-ce qu'il attend de ça, le Premier ministre? Qu'est-ce qu'il pourrait en sortir de différent de ce qu'il aura obtenu mercredi?
Je pense que pour lui, ce qui est important, c'est qu'au fond, d'acter devant les Français qu'il a maintenu jusqu'au bout le dialogue social, qu'il a vu les syndicats en bilatéral, qu'il les revoit en multilatéral, et qu'au fond, le message qui a été passé après le mouvement des Gilets jaunes, c'est de dire, on n'a jamais cessé de concerter, de dialoguer, même si on veut poursuivre les réformes et la direction du quinquennat. Et donc, je pense qu'il a besoin de cette image, de montrer, au fond, la scène sociale et lui au milieu. Et ça sera ensuite suivi, vous l'avez vu aussi, par les directions des entreprises publiques, pour montrer qu'il n'y a pas seulement des négociations avec les confédérations, mais aussi que les négociations continuent au sein des entreprises concernées au premier chef par la grève. Je pense que c'est ça qui se joue, c'est qu'au fond, on arrive dans cette période cruciale des fêtes de Noël, où les Français ont envie d'aller voir leur famille, où la grève, là, va impacter toutes les familles et tous les Français, et qu'il est très important pour le gouvernement de montrer que s'il y a blocage, encore, ça sera peut-être pas forcément de sa faute qu'il aura réuni les partenaires sociaux.
D'ailleurs, on a une question de Jean-Marie qui nous dit y aura-t-il des trains entre le 24 et le 26 décembre, et notamment sur les grandes lignes? Alors, il nous prend pas pour des responsables SNCF, mais c'est une bonne question. On parle des trains qui pourront rouler le fameux week-end, qui est celui où, en général, les gens partent en vacances, très bien, mais on n'a aucune idée de ce qui peut se passer pendant cette semaine-là, Gaël Sliman, qui risque quand même de peut-être changer la donne de cette grève ou pas.
Bah, moi, j'ai évidemment aucune information sur le sujet. Ce que nous savons les uns et les autres, c'est que la position de Philippe Martinez, de la CGT, de ceux qui sont particulièrement forts à la SNCF et accessoirement à la RATP, c'est une position radicale de retrait pur et simple. Donc, comme on ne se dirige pas vers ça, j'ai envie de répondre à votre auditeur, sans être un expert du domaine, que malheureusement, je pense que ce sera très limité et que très probablement, on aura les plus grandes difficultés les uns et les autres à aller voir nos familles un petit peu partout dans le pays. Parce qu'on autant, Françoise Fressoz a raison, on peut voir une issue, une possibilité d'ouverture avec la CFDT sur cette question d'âge pivot, autant il n'y a aucune chance, a priori, que ni la CGT dise bah, finalement les adaptations me suffisent, ni le gouvernement ne dise vous avez raison, je retire notre projet.
Yael, pardon.
Non, juste une comparaison avec 95. C'est vrai que le mouvement 95 n'avait pas débordé sur Noël parce qu'il avait démarré un tout petit peu plus tôt. Le 5 décembre, Alain Juppé lâchait du lest aux 20h de TF1 depuis
C'était
Matignon.
C'était un mouvement de novembre.
C'était un mouvement de novembre 95. Mmh. Et là, tout est parti 10-12 jours plus tard par rapport à 95. Donc forcément, s'il y a un dénouement dans la durée, il va peut-être se projeter au-delà de Noël.
Et en même temps, il y a un débat sur cette trêve, non ? Y compris d'ailleurs, alors la CGT, j'ai cru comprendre, effectivement, était plutôt contre cette trêve, mais ils ne sont pas tout seuls à gauche. Et il y a une sorte de débat sur il faudrait peut-être s'arrêter pour repartir derrière, non, Françoise Fresson?
Ben, on a vu déjà la position de Laurent Berger, hein, c'était la une du journal du dimanche, je crois, dimanche, c'était de dire on ne veut pas de blocage à Noël. Donc je pense que la CFDT va plaider pour la trêve. La CGT est contre parce qu'ils disent à partir du moment où les gens reprennent le travail, c'est très dur après de les refaire redémarrer dans le mouvement. Ça va beaucoup se jouer aussi à la base, hein, c'est-à-dire dans les AG qui ont lieu les matins, voir si la base est remontée, veut continuer ou pas. Et on voit dans ce mouvement que les syndicats, notamment Philippe Martinez, est très à l'écoute, hein, parce que au fond, ça a été aussi les grandes leçons des Gilets jaunes, c'est-à-dire comment ne pas se faire déborder et comment être à l'écoute. Et je pense qu'ils naviguent un peu à vue. C'est pour ça que c'est très difficile de prévoir ce qui va se passer. On voit un syndicat, la CFDT, qui dit on a envie au moins de faire la trêve de Noël. D'autres syndicats qui n'ont pas du tout envie de le faire parce que je pense que leur base est plus remontée.
Et là, Gaël Sliman, dans l'opinion, on voit qu'une majorité de Français, vous l'avez dit, continue à soutenir le mouvement. Il y en a aussi une majorité qui souhaiterait une trêve de Noël, de ce que j'ai cru comprendre.
Absolument. Les Français, évidemment, ils sont directement impactés. Et là, vous aviez raison de le rappeler tous, hein, pas que les Franciliens, par ce type de blocage. Donc, ils aimeraient bien qu'il y ait une trêve de Noël. Ils comprennent la mobilisation. Quand vous faites des sujets, des micro-trottoirs, ou vous interrogez les gens dans les journaux, et comme on le voit, nous, dans les sondages, ils nous disent deux choses un petit peu de manière schizophrène. Ils nous disent à la fois qu'ils sont très embêtés, pour ne pas dire plus, ou pour ne pas être plus trivial, et qu'ils en ont plus qu'assez. Le niveau de résilience de nos concitoyens sur le sujet est quand même assez remarquable, parce que c'est très très lourd ce qu'ils vivent en ce moment. Et en même temps, ils nous disent, mais je comprends, pour une majorité d'entre eux en tout cas, les revendications et la mobilisation des personnes qui se sont mises en grève. C'est pour ça que c'est quand même vraiment un gâchis, je reviens là-dessus, parce que, au départ, au moins Emmanuel Macron et Édouard Philippe auraient pu compter sur l'opinion publique. Ils auraient eu à affronter les mêmes blocages, mais ils auraient pu compter sur le soutien de l'opinion publique s'ils s'étaient focalisés sur la question des régimes spéciaux de retraite.
Allez-y.
Il y a un jeu qui se joue sur la trêve en ce moment, d'un côté comme de l'autre, CFDT ou gouvernement, c'est que dans les deux cas, les deux ont peur qu'on impute à l'autre les conséquences d'une trêve qui ne serait pas respectée. En gros, la CFDT veut pas avoir l'impopularité d'avoir été le mouvement social qui perdure à Noël, et le gouvernement veut pas non plus qu'on lui impute d'avoir provoqué l'absence de cette trêve. Il y a vraiment un enjeu d'opinion qui se joue, on sait pas de quel côté la pièce va retomber. Si on suit les sondages Odoxa dont Gaël parlait, c'est plutôt le gouvernement qui en pâtirait.
Voici Denis, qui est enseignant et qui nous dit « Comment prendre au sérieux le gouvernement sur le point de retraite ? Enseignant dont le salaire est basé sur le point d'indice de la fonction publique, je constate qu'il sert de variable d'ajustement aux dépenses publiques en restant bloqué depuis 10 ans. Comment croire ce gouvernement qui déclame sa volonté de ne point le toucher ?» Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Bruno Le Maire est ministre de l'économie, peut-être que ce point ne bougera pas, mais enfin, ça, c'est pas
évitable. Non, mais ce qu'on sent dans ce conflit aussi, ce qui se paye dans ce conflit aussi, c'est au fond toute la défiance qui a été accumulée parce que toutes les réformes, mais ça c'est pas seulement Emmanuel Macron, c'est-à-dire toutes les réformes antérieures ont été au fond vécues comme une atteinte aux acquis sociaux. Et ce qui s'est passé dans la fonction publique, c'est-à-dire il a fallu rétablir les comptes, faire attention au déficit budgétaire, donc c'est vrai que le point d'indice n'a pas augmenté pendant de longues années, y compris sous la gauche. Et donc je pense que ce que paye aujourd'hui Blanquer, qui essaye de montrer qu'il est favorable à une refonte des salaires des fonctionnaires de l'éducation nationale, c'est qu'au fond, il y a une défiance. On ne croit plus à la capacité des gouvernements à créer du bien-être et du mieux-être social. Et je pense que ça va être quelque chose de très dur à lever. Et c'est pour ça que moi j'insiste sur le fait que le gouvernement a quand même intérêt à un moment à faire du dialogue social à outrance. Sinon, il y aura toujours cette chape de défiance et qui au fond, à un moment, se paiera très cher.
Gaël Sliman.
Oui, c'est exactement ce qu'on observe en termes de discrédit de la parole publique en général, de celle de ce gouvernement et d'Emmanuel Macron quand même en particulier. Vous savez que cette image de président des riches qui lui colle à la peau, elle est très fâcheuse quand on est sur ce terrain social où là pour le coup l'idée de confiance est quelque chose de très important. Résultat, quand on a post-testé, regardez ce que pensaient les Français de la présentation qu'avait faite Édouard Philippe de cette réforme, qui avait été objectivement plutôt bon sur la forme. Le résultat était désastreux dans l'opinion parce que les gens nous disaient « nous allons tous être perdants ». On avait listé les catégories, les salariés du privé, les salariés du public. Les deux tiers des Français nous disant « les uns comme les autres vont perdre ». Bien sûr, les personnes qui bénéficient de régimes spéciaux de retraite, mais tout le monde va perdre. Et même, alors là, c'est des choses assez incroyables, les femmes. On a une majorité de Français et encore plus de femmes, 60%, qui disaient « nous allons être les perdantes de cette réforme », alors que le Premier ministre a passé un temps assez long et, je trouve, avec une certaine clarté quand même, à expliquer comment et pourquoi les femmes seraient les grandes gagnantes de cette réforme. Eh bien, il a eu beau avoir été clair, ce qu'ont reconnu les gens dans le sondage, on ne le croit pas, on ne les croit plus. Et du coup, dans ce genre de contexte, c'est extrêmement compliqué pour eux d'avancer, parce qu'on a besoin de confiance.
Et on en parlait d'ailleurs déjà hier, on n'entend pas les agriculteurs pour lesquels effectivement ça pourrait être
une avancée.
On n'entend pas les auto-entrepreneurs qui, pour chaque petite heure, y compris les cyclistes à vélo, etc., pourraient en bénéficier. Donc là-dessus, effectivement, il n'a pas été audible. Je voudrais vous soumettre la question de Gilles. Il y en a beaucoup un peu de cette sorte-là. Je pense qu'elle peut en faire sursauter deux ou trois qui nous écoutent en ce moment. Pourquoi personne n'envisage de prélever les retraités actuels, ceux qui ont bénéficié des 30 glorieuses, du plein emploi, d'un moindre coût des acquisitions foncières? Trouvez-vous normal qu'en plus de la crise climatique, vous mettiez le problème des retraites sur les jeunes? Y a-t-il pas une vision électoraliste terrible dans ce positionnement?
Mais c'était le projet initial d'Emmanuel Macron, la solidarité intergénérationnelle. Il a martelé ce message tout au long de l'année 2018, et puis après, la crise des gilets jaunes est arrivée. Et là, les retraités se sont rebiffés. Il y avait
avant, il y a eu l'histoire de la CSG,
la désindexation,
avant même, en fait.
La désindexation sur l'inflation, etc. Et tout ça, il a dû revenir en arrière pour se remettre effectivement sur son socle électoral qui commençait à le fuir un petit peu juste avant les européennes. Donc il y a un paradoxe, parce que cette solidarité intergénérationnelle, c'était l'ADN d'En Marche. Et aujourd'hui, clairement, on fout la paix aux retraités. Il n'est pas question de toucher à eux, de toucher à leur retraite et de remettre le couvert et de revivre les scènes que avait vécu Emmanuel Macron. Vous vous souvenez, lors de son itinérance mémorielle dans les villages des champs de bataille de la guerre 14-18, où il se faisait interpeller à tous les carrefours par des retraités en colère.
Et voyez, pourtant, nous avons cette question de Catherine qui nous dit « Je suis retraitée, je soutiens le mouvement de grève, cette réforme va appauvrir plein de retraités ». Qu'est-ce qu'on dit de ça?
Alors ça a été effectivement le grand fantasme de certains retraités actuels qui sont absolument pas touchés par la réforme ont eu l'impression qu'ils allaient le subir. Alors ça, c'est un problème de communication, ou alors peut-être
de
qu'il y a eu
aussi.
Le problème de confiance. Mais je trouve que le problème des retraités, c'est très intéressant, parce qu'au fond, ça marque le cercle dans lequel est Emmanuel Macron. Toute la campagne d'En Marche pendant la campagne présidentielle était de dire effectivement on va favoriser les jeunes par rapport aux actifs. Au fond, et quand il a fait la hausse de la CSG, il s'est rendu compte qu'au fond, les retraités, eux, ne raisonnaient pas du tout comme ça. Ils raisonnaient comme « j'ai passé une vie de labeur à travailler et j'ai droit à ma retraite ». Et la solidarité intergénérationnelle, c'est pas du tout mon souci. Donc, il y a eu ça. Deuxième chose, dans une campagne présidentielle, dans une élection présidentielle, le bloc le plus stable et celui qui vote le plus, c'est les retraités. Et donc, dans la bataille contre Marine Le Pen, que Emmanuel Macron prépare activement, le bloc retraité est fondamental. Il ne faut pas qu'il le perde s'il veut être réélu. Et donc, je pense que c'est un peu la quadrature du cercle dans lequel il est. Il ne peut pas perdre les retraités. Et donc, il les chouchoute alors qu'il aurait pu leur demander de mettre la main à contribution.
Deux auditeurs qui nous écoutent et qui veulent rectifier un certain nombre de choses. Contrairement à ce que vous dites, il y a déjà aujourd'hui des retraites où une décote s'applique ad vitam aeternam. C'est le cas du régime général actuel. Si l'on n'a pas le compte de trimestre validé ou le nombre d'années
mais ça,
de travail.
Pas la décote.
Et ça, c'est mon cas, notre ami Claude. Une autre question, c'est plutôt pour vous, Gaëlle Slimane, et c'est Tiffaine qui nous dit « J'étais une fidèle auditrice de votre radio depuis 20 ans ». Ce j'étais me fait peur. Votre téléphone sonne ce soir, me révolte. Autour de moi, nombreux et majoritairement sont ceux qui s'indignent du mouvement, qui ne sont absolument pas solidaires. C'est un luxe que celui de manifester et de se mettre en grève. Il y a vraiment une scission entre fonctionnaires et ceux qui bossent à leur compte, qui prennent des risques, qui mouillent leur chemise et qui ne songent pas à leur retraite. Gaël Slimane, est-ce qu'on risque d'arriver à cette scission-là? C'est toujours ce qu'on craint dans ce genre de mouvement. On l'avait aussi dit en 1995, où là c'était vraiment les fonctionnaires qui étaient tous dans la rue.
Ah oui, mais le privé était là en 95. Il est presque pas là aujourd'hui.
Moins quand même. En 95.
Ah oui, le privé était là, mais moins que le public. Et aujourd'hui, il est quasiment absent. Ouais. Ensuite, sur la scission.
Donc cette scission-là, qu'exprime Tiphaine.
Mais c'est pour ça que. C'est très étonnant d'avoir voulu faire cette réforme double, qui la remise à plat des régimes spéciaux de retraite. Les Français y étaient favorables, peut-être parce que la plupart d'entre eux ne sont pas concernés, comme les retraités qui sont systématiquement favorables à toutes les réformes des retraites pour les autres. Donc il y a cette part d'égoïsme en nous qui fait que ça aurait été beaucoup plus sioux, beaucoup plus stratège, que de proposer une réforme des régimes spéciaux, la remise à plat de tous les régimes en un seul, et puis ensuite de voir ces aspects paramétriques sur la valeur des choses. Après, c'est assez cocasse aussi d'entendre le gouvernement ou ses représentants expliquer qu'ils ne veulent surtout pas monter les Français les uns contre les autres, alors qu'ils ont passé plusieurs semaines au départ à essayer de jouer cette carte-là, des privilégiés versus le reste de la population. Mais c'est certain que c'est un risque structurel quand on remet à plat, on fait un grand jeu de bonneteau, on remet à plat toutes les cartes, que de voir certaines catégories s'opposer à d'autres.
Là, ce soir, les gens que j'ai eu à Matignon au téléphone se réjouissaient du fait que le public avait fait son plein, ou presque son plein, mais que le privé n'avait pas embrayé encore sur cette troisième journée nationale de mobilisation. Souvenez-vous, le 5 décembre, je crois que les entreprises privées les plus marquantes, c'était Orange et Renault, qui n'étaient pas privées au départ, d'ailleurs, dans l'histoire. C'était du 5% pour Renault et 10-15% pour Orange. C'est tout. Donc, il y a clairement, dans ce mouvement-là de ce mardi, 17 décembre, c'est pas une manifestation où le privé s'est massivement joint aux salariés du public.
Et c'est pour ça que nous avons Bernard qui nous dit le montant des pensions est parfois plus avantageux dans le public que dans le privé. Il y a une injustice dans les manifestations les 6 derniers mois pour le public, les 25 dernières années pour le privé.
Mais tout ça disparaît dans la réforme.
Exactement, qui supporte toujours et supportera toujours, nous dit Bernard, la quasi-totalité du financement des retraites.
Mais tout ça disparaît dans la réforme à part point, c'est le principe.
Mais la perception de Bernard dit la même chose que la perception au fond de cette retraitée qu'on a entendue tout à l'heure.
Oui, parce qu'il y a quand même aussi une notion de contrat, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans une profession, ou dans un secteur, il y a une sorte de contrat social. Et par exemple, si on prend le cas des enseignants, c'est qu'au fond, ils ont un début de carrière mal payé, et puis leur carrière s'améliore, et au fond, leur pension est calculée sur les 6 derniers mois, tenant compte de ce profil-là. Donc, ce qui est intéressant, ceci dit, dans la réforme des retraites, c'est que ça oblige à remettre à plat tout le système et à favoriser peut-être les enseignants qui se retrouvent plongés en début de carrière dans des classes difficiles et qui sont pas payés aussi bien qu'ils le devraient. Donc, il peut y avoir des avantages dans cette réforme, mais là encore, je pense que c'est le gros sujet, c'est la confiance. C'est en quoi le gouvernement peut regagner de la confiance pour remettre à plat tout ça.
Démonstration par l'exemple, Françoise, avec Bruno qui est enseignant et qui dit, en ce qui concerne la confiance envers le ministre Blanquer, il conviendrait de rappeler que la première mesure qu'il a prise fut de geler pendant un an le plan de revalorisation des salaires signé par son prédécesseur, ce qui a eu pour effet de détruire tout son crédit. Il y a quelque chose qui s'est terriblement délité entre Jean-Michel Blanquer et les enseignants, c'est le moins qu'on puisse dire, l'un ou l'autre. Gaël Slimane, Françoise Fressos, peu importe.
Mais Jean-Michel Blanquer et les enseignants, certes, mais en fait, vous prenez l'ensemble des membres de ce gouvernement et que ce soit à l'égard de leurs ouailles respectives ou des personnes à qui ils s'adressent, si je puis dire, ou à l'égard du grand public, de la population française, vous avez un niveau de rejet qui est massif. Le seul ministre du gouvernement qui arrive à des niveaux de popularité à peu près décents, c'est Jean-Yves Le Drian. Et en l'occurrence, bon, ses ouailles, vous n'avez...
sur des diplomates,
voilà. Et pourtant, Jean-Michel,
les ambassadeurs.
Voilà, si on arrive à faire manifester les diplomates, c'est la
plus
fin compliqué. De la fin.
Et ça pourtant, va trop loin, et pourtant, Jean-Michel Blanquer fait quand même partie, si je puis dire, enfin si on peut émettre un jugement, de ceux qui sont parmi les plus habiles et les moins maladroits. Mais même auprès de lui, vous avez cette défiance qui est un problème très particulier de ce gouvernement et de cette présidence Macron. qui rejoint peut-être ce qu'on pouvait observer il y a quelques années avec la présidence Sarkozy, l'idée d'une présidence pour la France d'en haut, les élites, les riches, et tout ça jette un discrédit sur toutes les actions qui sont menées.
Voici la question d'Éric qui va encore une fois en faire sursauter plus d'un de l'autre côté du poste. Est-ce qu'on n'arrive pas au bout du système par répartition ? On pourrait y aller vers un système de capitalisation bien géré en faisant de la capitalisation personnelle. Chacun cotise pour soi. Pourquoi on n'en parle pas ?
Parce que ce sont des systèmes, ça a existé en France avant-guerre, et c'est des systèmes qui sont extrêmement fragiles parce que vous avez une tempête boursière et vous perdez beaucoup. Et là, il faut quand même faire crédit au gouvernement.
En fonction de ce que chacun peut...
Oui, mais après, vous n'êtes pas... En fait, c'est comme si vous jouez en bourse, et donc c'est pas du tout garanti. Et je pense qu'il faut faire crédit à ce gouvernement, au contraire, d'avoir voulu stabiliser la répartition en essayant de construire un système plus équitable. C'est très compliqué, mais au moins, on peut pas lui faire le procès d'avoir voulu mettre à bas le système de répartition.
La suite, c'est demain, donc, ce rendez-vous syndical. Et puis, jeudi également, on aura l'occasion d'en reparler de retraite. On essaiera aussi de parler d'autres choses. Tiens, ça peut nous faire du bien. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos nombreuses questions. Il est 20h sur Inter.